Il ne vous aura pas échappé que nous avons parlé de devenir disciple de Christ durant plus ou moins 10 semaines. Alors si l'on comptabilise les autres messages qui ont abordé d'une façon ou d'une autre, d'un aspect ou d'un autre du discipulat, ça fait encore beaucoup plus, c'est-à-dire l'importance de la problématique, en tout cas de la dimension de disciple dans l'Écriture. Et puis, en passant, je me rappelle quand même que c'est une des valeurs de l'Église, devenir disciple du Christ. Pourtant, et c'est par expérience que je parle, il semble que devenir disciple reste un problème pour bon nombre de chrétiens. Alors, il existerait certainement de très nombreuses raisons à cela, à commencer par notre trajectoire de vie, notre caractère, notre personnalité, nos choix, ce qui fait que je suis moi et pas quelqu'un d'autre. Alors tout cela est vrai, et j'ai envie de dire que souvent, malheureusement, c'est vrai, mais le pasteur qui est en moi ne peut pas se résoudre à admettre ce déterminisme, ce serait terrible si j'admettais ça. Pour la simple et bonne raison que même si ce déterminisme qui nous forme ou nous déforme, selon les cas, existe bel et bien, la Bible n'enseigne pas la soumission à ses causes psychologiques, sociologiques et contextuelles. Quand on voit les disciples, ils étaient tous arrangés. Ça ne les a pas empêchés de devenir des disciples. Pour le dire donc clairement, ces causes ne sont pas une excuse pour ne pas devenir un disciple. Alors en réfléchissant au pourquoi un toujours plus grand nombre de chrétiens occidentaux font le choix de faire passer Dieu après tout le reste ou abandonner en cours de route, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi une incompréhension profonde à l'origine de tout ça. Une incompréhension concernant ce qu'est un disciple à la base. L'image que nous avons du disciple est donc, à mon avis, souvent idéalisée, tellement idéalisée qu'elle finit par nous faire peur. Je vais donc essayer aujourd'hui d'éclaircir un ou deux points fondamentaux qui pourraient être à l'origine de notre difficulté à devenir ce que notre Dieu désire. Je vais tenter de le faire à partir de deux textes, de deux passages principaux, l'un se trouvant dans l'évangile de Jean, l'autre dans l'épître de Paul aux Romains. Je pense que vous connaissez tous les deux ces textes. Maintenant, encore une fois, c'est de la théologie. On se dit, bon, théologie, ça vole, mais ça ne vole pas. La théologie, c'est supposé être mis en pratique. Le premier texte, vous le connaissez, c'est un enseignement terriblement important, en particulier par rapport à cette notion de disciple, que l'on trouve en Jean 15, les versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cèpe. Alors, le vrai cèpe, c'est le tronc de la vigne qui porte les branches, branches qui portent les fruits, pour ceux qui ne seraient pas très familiarisés avec cette dimension. C'est moi qui suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, dans toute branche, et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Sans rester attaché au cep, il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ceux qui demeurent en moi et en qui je demeure portent beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Donc, les branches sont arrachées et les branches sèchent. Hein. On comprend l'analogie, je pense. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors c'est un texte très connu et extraordinairement mal compris. En fait, ce texte nous fait peur déjà. On parle de feu, de ceux qui ne servent à rien, on les jette, on les brûle. Oh hein, ça donne envie. Hein. Si jamais je ne demeure pas, je vais me faire couper ma tête, Moïse. Alors, j'aimerais, pas tout développer, mais j'aimerais que nous arrêtions pour commencer sur le verbe le plus important dans ce passage, qui est le verbe « demeurer ». Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent leur cours de grammaire française, hein, parce que la grammaire, ça existe dans toutes les langues. « Demeurer » est un verbe d'état, en opposition à un verbe d'action. Il y a des synonymes, il y a d'autres verbes d'état. J'en cite quelques-uns, les principaux. « Être »,« paraître »,« sembler », »,« rester ». Ce sont des verbes d'état. Autre particularité de ces verbes, c'est qu'ils peuvent tous être remplacés par le verbe être. Donc quand Jésus dit « demeurez en moi », il aurait pu dire « soyez en moi ». Car ce que Jésus nous dit, c'est que le fait de demeurer en lui est un état, une position, un statut. Donc on pourrait en déduire que l'on ne doit rien faire pour demeurer, puisque je suis en Christ. Ouais. Seulement, Jésus va introduire une légère tension par rapport à cette réalité que je suis en Christ. Parce qu'il va dire à plusieurs reprises dans ce passage, « Si vous ne demeurez pas en moi, il est donc possible de ne pas ou de ne plus demeurer. » Et Jésus de parler de l'amour, de ces paroles qui doivent demeurer en nous, et des fruits que nous porterons si nous demeurons. Mais avant de parler de tout ça, et j'en parlerai d'ailleurs pas aujourd'hui, des fruits, etc., on focalise sur les fruits qu'il faut porter, il faut peut-être commencer à réfléchir sur la question première, qui est, qui reste, que dois-je faire pour demeurer, pour rester attaché à Jésus. C'est là, je pense, qu'il va falloir éclaircir les choses, parce que si on ne comprend pas ça, on ne deviendra pas un disciple. Au bout du bout des choses, un disciple est simplement quelqu'un qui demeure en Christ, qui reste attaché à lui. Voilà. C'est une magnifique définition, elle est très simple et surtout très vraie. On va prendre notre deuxième texte et je passerai de l'un à l'autre. Parce que l'un et l'autre s'éclairent mutuellement. Merci Seigneur de nous avoir donné Paul, qui pour beaucoup d'entre nous complique les choses alors qu'il les clarifie. Ce texte se trouve dans Romains 8. Dans le 8e chapitre de la lettre de Paul à l'église de Rome. C'est probablement, au niveau de la vie chrétienne, le chapitre, je m'avance, hein, le chapitre le plus important de l'Écriture. C'est aussi bête que ça. Si on comprend Romains 8, on va comprendre beaucoup de choses. Voilà ce qu'il dit. Quant à vous, il s'adresse à des chrétiens, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit de Dieu. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, parce qu'il continue à fonctionner par rapport à votre nature propre, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte de quoi ? La crainte de Dieu. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Logiquement, on n'a pas peur de son Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors ça paraît aussi un peu compliqué, je mentirais en disant que ça ne l'est pas à première lecture, mais en fait c'est très éclairant et je vais essayer d'éclairer. Un peu pour ça que je suis là. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pas l'Esprit Saint, pas attaché à Jésus. Pour demeurer, il faut donc avoir l'Esprit Saint. Je ne peux pas demeurer par moi-même, selon mon propre désir ou mes propres forces. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans le même enseignement en Jean, rappelez-vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous essayez de rester attaché à moi sans l'Esprit Saint, c'est impossible. C'est par le Saint-Esprit que Christ s'attache à nous. On pourrait donc déjà dire que demeurer en Christ, c'est un synonyme de demeurer dans l'Esprit ou de marcher dans l'Esprit, pour employer une expression chère à notre ami Paul. Marcher dans l'esprit. Demeurer en Christ ou marcher dans l'esprit ou demeurer dans l'esprit, c'est synonyme, c'est la même chose. C'est là, malgré tout, je pense, que les choses se compliquent un peu. C'est là qu'arrivent les questions, normalement. Comment faire pour marcher dans l'esprit? Et même avant cela, quelle est la base de la marche dans l'esprit? Quelle est la base de la vie du disciple? La base, hein, ce qui fait qu'il est un disciple. Paul nous donne la réponse au verset 15 et 16. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba », ça veut dire « papa hein, » en araméen. « Abba », ça veut dire « papa ». Donc, vous dites, vous passez d'un Dieu tout-puissant, hein, dont vous avez peut-être un peur, et en Christ, vous devenez, parce que Christ est fils de Dieu, vous devenez quelqu'un qui dit « papa » à Dieu. C'est quand même... non ? Bon. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là, c'est ces deux versets l'articulation. On va y venir. Il faut donc être fils ou fille, hein, soyons inclusifs. Pour marcher dans l'esprit, pour demeurer, il faut être fils ou fille. Premier élément donc, personne ne dit « mon père » à Dieu s'il n'est pas un enfant de Dieu. Vous allez me dire ça, on l'avait peut-être compris, quoique. Donc si l'Esprit Saint ne lui révèle pas la paternité de Dieu et le lien filial qui l'unit à Dieu, aucun incroyant, aucun athée ne dit « papa » à Dieu. Ça tombe sous le sens, il me semble. Hein? Non ? Quoique. Quoique, souvent, ça ne suffit pas, savoir ça. Ça ne suffit pas à nous rassurer. Parce qu'au temps de Paul, par exemple, la civilisation n'étant pas chrétienne, personne ne se serait adressé à Dieu en l'appelant père par pression religieuse ou culturelle. Personne n'aurait fait ça. Les chrétiens étaient en minorité. Par contre, de nos jours, on peut dire mon père à Dieu par éducation religieuse ou acclimatation culturelle. Beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens du tout connaissent le Notre Père par cœur et le récitent parfois par cœur. Le fait de dire mon père dans une prière comme le Notre Père à Dieu, ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Donc la réalité qu'exprime Paul est sensiblement différente de nos jours. On peut donc dire mon père à Dieu en n'étant pas son enfant, mais aussi douter de l'être en lui disant père alors qu'on l'est. Si on ne devient pas disciple, c'est parce qu'on doute en partie de la paternité de Dieu. Je voudrais vraiment que nous commencions à comprendre qu'on ne peut pas devenir disciple si l'on doute que Dieu est notre Père et qu'il nous aime. Parce que cela fonde notre base pour demeurer en Christ, comme lui-même était dans le Père, c'est ce que Jésus dit en Jean 17. Hein. « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». C'est la sécurité de la position de Jésus en son Père qui lui a permis de vivre une vie de disciple comme le Père le conçoit. Jésus n'a pas vécu la vie qu'il relate dans l'Évangile, qui nous est relatée dans l'Évangile, il n'a pas vécu ça comme ça en se levant le matin, on dit « oui, youpi ». Il a réussi à vivre cette vie-là parce qu'il était profondément dans le Père et le Père en lui. Il était véritablement fils. D'accord ? On a souvent tendance à oublier que tout ce que nous devons savoir de la vie de disciple, c'est Jésus qui nous l'a montré. Jésus était le premier disciple de la Nouvelle Alliance. On oublie ça. Il l'a vécu, et parce qu'il l'a vécu, il l'a fondé. C'est Jésus qui fonde la Nouvelle Alliance relationnelle avec son Père. Paul va encore nous donner, paternité de Dieu, coincez ça dans un coin de votre tête. Hein. Paul va encore nous donner un deuxième élément, une deuxième base. Il dit toujours dans le même texte, l'Esprit lui-même, l'Esprit Saint, donc, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette phrase m'a toujours laissé un peu perplexe, intrigué, mais perplexe. À quel genre d'expérience Paul fait-il référence ici ? L'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que peut bien produire l'Esprit Saint en moi pour que je sache avec certitude que je suis un enfant de Dieu ? Quel genre de témoignage l'apôtre a-t-il à l'esprit lorsqu'il écrit ça ?
Une bonne question, hein ? Je suis certain que vous l'êtes posé.
Alors, petite remarque préliminaire auquel Paul fait allusion dans ce verset. Les termes employés par l'apôtre nous montrent que même quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, notre esprit à nous, il en reste distinct. Il y a en nous l'Esprit de Dieu et notre esprit. Dieu habite en l'homme par son esprit, il le dirige, le sanctifie, donc le rend de plus en plus semblable à Jésus, mais la personnalité de l'homme ne se fond pas, ne disparaît pas en Dieu. L'Esprit Saint est un don de Dieu à l'homme, mais il reste distinct de l'esprit de l'homme. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Donc ça veut dire pratiquement que demeurer en Christ, ça ne veut pas dire disparaître en Christ. Vous avez, enfin, Nicolas, tu as l'Esprit Saint, j'en suis sûr, mon ami. Mais tu restes Nicolas. Hein. Là, c'est là qu'il faut s'arrêter et prier. C'est valable pour tout le monde. Hein. Autrement, nous serions tous semblables. Et ce n'est absolument pas le plan de Dieu. On peut donc prendre ce verset, cette parole de Paul, dans le sens que le témoignage de l'Esprit Saint en nous rend à notre esprit, à nous, conscient, il nous donne la conscience du sentiment filial que nous ressentons. Je vais clarifier ça. Beaucoup d'entre nous ont ressenti ce genre de choses, à un moment ou à un autre de leur vie. Cette douce certitude que Dieu est notre Père, on a parfois ressenti ça. Je dis bien parfois. Malheureusement, ce ressenti n'est pas permanent. Vous avez remarqué. Donc, comme ce n'est pas permanent, ça nous jette souvent dans les affres du doute, et parfois même du ressentiment. On en veut un peu à Dieu parce que ce ressenti devient flou ou même disparaît totalement. Et quand on doute souvent, on s'arrête, on s'assied et on n'avance plus. Il doit donc y avoir une autre chose. Autre chose pour nous convaincre que nous sommes un enfant de Dieu et que nous sommes aptes à demeurer, que nous sommes aptes à demeurer, quelque chose de supplémentaire ou de plus probant que ce simple sentiment filial fugace qui nous envahit parfois. Pour découvrir cette autre chose, il faut encore que nous nous posions une autre question. Qu'est-ce qui caractérise un véritable chrétien ? Un disciple au quotidien, qu'est-ce qu'il caractérise ? Alors la plupart des chrétiens, quand vous leur posez cette question, ils vont dire « l'amour ». Ah oui, oui. Oui, mais le problème, c'est que dans notre parabole du serment, de la vigne, l'amour, c'est un fruit. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit ne vient pas tout seul. Donc l'amour est un fruit de l'esprit, c'est vrai. Le fruit de l'action de l'esprit, c'est en nous. Mais l'amour, ce n'est pas la racine, n'est pas à la racine de la vie de disciple. Ça ne peut pas être ça. Notre amour étant loin d'être parfait, les racines seraient caduques tout de suite. On va prendre Romains 7, un peu avant, pour avoir la réponse à cette question. Qu'est-ce qui est à la racine de la vie du disciple ? C'est Paul qui parle toujours. « Je découvre donc cette loi, en lui-même donc, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Je veux faire le bien, je fais le mal. » Qu'est-ce que Paul exprime ici ? Petite question, vous êtes convaincu que Paul était un disciple ? Rassurez-moi, si lui n'est pas un disciple, je ne sais pas qui il est, honnêtement. Paul est un disciple du Christ. Et il dit, je vais essayer de plus clair que ça, qu'est-ce qu'il essaie de transmettre ? Alors que c'est un disciple, lui. Hein. Et il parle de son quotidien. Un disciple est quelqu'un qui se bat contre son péché. À la racine de son être, il sait ce que Dieu veut, il sait ce qu'il est, et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est difficile, c'est un combat tous les jours, c'est à se taper parfois la tête dans les murs, à s'en vouloir à mort, mais il ne se passe rien. À la base, la racine de la vie de disciple, c'est prendre conscience de son être profond. Sans Dieu, il se dit, moi, je veux ce que je veux, ce que désire le Seigneur, je veux me battre contre ce que je suis par nature tous les jours. Ça n'a rien. C'est pas être disciple, c'est pas avoir reçu tous les dons, être magnifique, prêcher comme personne n'a jamais prêché. Ça n'est pas ça être un disciple. C'est d'abord prendre conscience qu'on est pécheur et qu'il faut se battre contre cette réalité tous les jours avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est à la racine de la vie de disciple. Donc c'est quelqu'un qui ne s'accommode pas de ce qu'il est par nature. Alors comment le pourrait-il ? Puisqu'il sait ce que cela a coûté à son Seigneur d'être rendu capable de prendre conscience de son état. C'est ce que Paul dit dans notre passage, rappelez-vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature humaine. Nous avons cette dette par rapport à Dieu. La dette, si dette il y a, c'est à Dieu que nous avons cette dette. Une dette d'amour. Nous ne devons rien à notre nature humaine. Elle nous a détruit l'existence. Elle nous détruit l'existence. Nous ne devons rien à notre nature humaine, dit Paul, mais tout à Dieu. Il serait donc totalement inconcevable qu'un disciple passe son temps à se soumettre à sa nature humaine et à ne pas se soumettre à Dieu, à ne pas se battre pour apprendre, pour changer et apprendre à se soumettre à Dieu. Je vais essayer de résumer ça. Un disciple est donc quelqu'un profondément conscient de son péché et luttant contre lui avant d'être quoi que ce soit d'autre. Car en manifestant cette réalité dans sa vie, le fait qu'il se bat contre ça, tous les jours, il démontre qu'il a un autre esprit que le sien à l'œuvre en lui. C'est clair ce que je viens de dire ? Si vous ne vous battez pas contre ce que vous êtes, personne ne va savoir que vous êtes un disciple. Hein ? Personne. Parce qu'il n'y a rien qui changera. Donc ça devrait déjà démystifier un peu la notion de disciple. Parce qu'en parlant de disciple, on voit Paul, Pierre, oh mon Dieu, mais c'est des gens qui ont tous les jours, boum, s'opposer, prier, résister, non, ça je ne peux plus fonctionner comme ça, à quoi je viens de penser, etc., etc. Tous les jours, c'est fatigant. Hein. Tous les jours, combat spirituel, c'est ça, contre soi. Donc, vous voulez savoir si vous demeurez en Christ ? Demandez-vous si ce que produit votre nature humaine vous intéresse ou pas. si ça vous perturbe ou pas, si cela vous mine ou pas, si ça vous attriste ou pas. Si, je veux dire, cash, hein, si ça vous n'en a rien à cirer, vous pouvez douter franchement de votre position en Christ, vraiment. Mais c'est le plus grand piège du diable inventé aussi. C'est le plus grand piège que le diable ait inventé, peut-être le dire dans ce sens-là. Nous faire désespérer de notre péché ou nous faire croire qu'il n'a pas d'importance. Ce que je produis à partir de ma nature en tant que chrétien, que ça n'a pas d'importance, ou alors que je suis tellement en phase avec ça, mon Dieu, tellement conscient, que je me sens comme un mot de cinq lettres, et que ça m'empêche d'avancer. On peut désespérer de notre péché, et peut-être même parfois il faut le faire, mais nous ne devons jamais désespérer de notre Seigneur, de la capacité qu'a son esprit de nous changer, de faire toutes choses nouvelles. Donc il faut un équilibre ici, mais je vais continuer à approfondir ça. Objectivement, vous croyez que nos ténèbres intérieures, on va appeler ça comme ça, Dieu ne les connaît pas, vos ténèbres intérieures, vous pensez qu'il ne les connaît pas. Quand notre Seigneur s'est incarné, vous pensez qu'il ne savait pas où il mettait les pieds. C'est le début de l'évangile des gens, de Jean. En elle, donc en la parole de Dieu, dans le Christ, il y avait la vie, et cette vie était à la lumière des hommes. Vous connaissez la suite ? Et les hommes n'ont pas reçu. Ils savaient bien qu'il allait débarquer dans un truc tordu et complètement à l'ouest. Hein. Ils savaient. Mais les ténèbres extérieures, c'est une chose, et ce n'est pas gai souvent. Hein. Dans toutes nos semaines, on peut dire comment le monde tourne, et on peut s'inquiéter, mais ce n'est pas ça le plus inquiétant. Le disciple, il ne s'inquiète pas d'abord de ce qui se passe autour de lui, il s'inquiète de ce qui est en lui, c'est de ces ténèbres intérieures dont il s'inquiète d'abord. Parce que ces ténèbres intérieures vont soit amener de la lumière à l'extérieur, ou réenchérir, rajouter plus de ténèbres. Et un disciple de Christ, ou un enfant de Dieu, qui rajoute plus de ténèbres, vous ne pensez pas qu'il y a un problème, vous ? Alors qu'il est un fils ou une fille de la lumière. Les ténèbres intérieures sont plus terribles pour nous et plus angoissants, forcément. Parce que c'est là que l'usure du temps, la désespérance de nous-mêmes, la désillusion et le sentiment d'impuissance étouffent parfois, ou semblent étouffer, les dernières semences que pourtant Dieu a semées à cet endroit-là. On désespère de soi à cause de son péché. On s'estime indigne de l'amour de Dieu. Ça vous est jamais arrivé ? Moi, ça m'est arrivé. Et on se retrouve dès lors face à ce paradoxe absolu qui nous fait prendre l'aiguillon de l'Esprit Saint pour une preuve d'échec. Nous oublions que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a sensibilisés à notre péché. Et nous ne voyons plus que notre faute. Parce qu'on oublie que c'est le Saint-Esprit qui nous a éclairés. Et nous en venons alors à abandonner secrètement toute idée de disciple, de devenir un disciple, nous disant que nous n'y arriverons pas, que nous ne sommes pas dignes, alors que c'est cette acuité terrible, ce regard sans concession porté sur notre conduite qui constitue justement le chemin du disciple. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir cette acuité que le Saint-Esprit nous pousse à reconnaître ce qui ne va pas dans nos vies. C'est justement parce qu'il nous pousse à reconnaître ça, qu'il nous le montre que nous sommes certains d'être un disciple et que ça nous chagrine, et qu'on n'en veut plus dans notre vie. On confond l'action de l'esprit avec la conséquence de son action. Je résume ça. Nous savons que nous avons péché parce que l'esprit agit en nous. Sans lui, vous ne pourriez pas savoir. Et nous sommes meurtris quand nous péchons parce que nous sommes vraiment un enfant de Dieu. Les gens, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'en avez rien à foutre de ce que vous faites. Vous allez commencer à dire que les responsabilités sont chez les autres. Hein. Vous engueulez avec quelqu'un, moi je ne suis pas responsable, c'est lui qui a tort. Les chrétiens ils fonctionnent comme ça aussi, mais là il y a un problème. Mais avec l'Esprit Saint, on peut s'engueuler avec n'importe qui, la terre entière. Mais à un moment, l'Esprit Saint, si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit Saint, non, oui, mais tu as ta part de responsabilité là-dedans. Et même si tu n'en as aucune, qui est l'enfant de lumière ? Qui va devoir réinjecter de la réconciliation là-dedans ? C'est toi. Vous savez, j'ai entendu un nom incalculable de fois dire, et même parfois enseigner, que le Christ nous abandonnait quand on péchait. Tu pèches, rupture. Pourtant, à titre personnel, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, quand je lis les évangiles, je ne vois pas de trace de ça, moi. Au contraire, c'est uniquement par la présence de Dieu, dans sa proximité que l'homme prend conscience de ce qu'il est, donc il prend conscience de son péché. Ni Dieu ni son Fils n'ont demandé à l'homme de s'éloigner à partir du moment où cet homme prenait conscience de son état. Alors j'ai pris deux exemples dans la Bible de cette réalité. Premier exemple, ce qu'on appelle le texte de la vocation du prophète Ésaïe, en Ésaïe 6. Ésaïe, contexte, Ésaïe rentre dans le temple, parce qu'il officiait dans le temple, et là, il a une apparition, hein, je mets des guillemets, hein, enfin, il a une apparition de Dieu. Il voit Dieu. On peut même peut-être parler de conversion. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Je cite, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme impur. J'habite au milieu d'un peuple impur, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Ésaïe prend conscience de ce qu'il est et il dit je vais être mort, quoi. Parce que je ne peux pas tenir en présence d'un Dieu pareil. Et il se passe quoi après? Le texte le dit, un chérubin qui prend une braise dans le feu, dans le temple, et qui touche avec Ésaïe, et Dieu dit tu es pur. Et là, juste après, intéressant, Dieu dit qui vais-je envoyer pour être mon disciple auprès de mon peuple? Et il a dit, envoie-moi, moi j'irai. C'est intéressant ça. Nouveau Testament, pêche miraculeuse, les disciples ne prennent rien. Jésus apparaît, il dit à Pierre, lance tes filets de l'autre côté. Et là, la pêche, elle est miraculeuse. Ils savent plus, il y a tellement de poissons que les filets sont prêts à craquer. Et face à ce miracle, Pierre a la préscience de qui est face à lui. Il tombe à plat ventre devant Jésus, il dit quoi? Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Rappelez la réponse de Jésus, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il semble donc que plutôt qu'éloigner Dieu, le fait de prendre conscience de son péché, ça marque l'homme et quelque part, ça le qualifie pour le service de Dieu. Le péché dans la vie du disciple, ce n'est pas un obstacle, c'est un révélateur et c'est une authenticité. Et c'est une qualification. Il ne s'éloigne pas de nous parce que nous sommes pécheurs. Il s'éloigne parfois parce que nous ne reconnaissons pas que nous le sommes. Là, il ne peut plus rien faire pour nous. Nous sommes tellement aveuglés sur nous-mêmes que nous pensons que nous sommes, n'avons rien à reprocher, que tout va bien et que voilà. Donc, je pense que l'obéissance à laquelle Jésus appelle ceux qui demeurent est d'abord un appel à discerner le mal en eux à la lumière du Saint-Esprit. Mes amis, le disciple du Christ ne pourra jamais chasser la tristesse selon l'esprit de sa vie. Et c'est normal. À mon sens, il n'y a que les insensés qui dorment quand la maison brûle. Le disciple est toujours triste de voir qu'il manque d'amour. Il est toujours triste de voir qu'il ne donne pas assez, qu'il n'est pas suffisamment consacré. Le disciple de Jésus se compare en permanence avec Pierre, Paul et tous les autres. Qu'il estimait tellement plus ceci ou cela que lui. C'est un passage obligé afin que nous prenions conscience du côté unique de notre relation au Christ. Et si ça peut vous rassurer, je vous rappelle deux phrases, deux citations que Paul, deux choses que Paul dit de lui-même. Je suis le moindre de tous les apôtres. C'est Paul, hein. Je ne mérite pas le titre d'apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est une blessure qui ne s'est jamais refermée, ça. En Éphésiens, je suis le moindre de tous les croyants, même plus d'apôtres, je suis le moindre de tous les croyants. Il est moins que nous, il dit. Moins que nous. Pourtant, il rajoute, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Il a fait de moi un prédicateur, même si je ne suis rien, à mes propres yeux. Ce qu'on paraît, Paul. Le disciple est celui qui, au milieu de ses luttes, de ses remises en question, aussi difficiles soient-elles, est capable d'entendre Jésus lui dire « Tu es mon ami. Tu es mon ami. » C'est ce que Pierre a compris dans le pire moment de sa vie. Deux disciples. Hein. Lorsqu'après avoir renié son maître trois fois, celui-ci pose sur lui un regard d'amour lui disant « Tu es mon ami, Pierre, ne doute jamais de ça. » Jésus connaissait bien Pierre. Il le connaissait mieux que lui-même. Il savait qu'il échouerait au grand test du regard des autres et de la solitude. Je dis de la solitude parce que c'est facile de chanter Jésus est Seigneur dans une église parmi d'autres chrétiens. Mais ça, c'est facile. Qu'est-ce qu'on chante bien dans les églises? C'est beaucoup plus difficile quand on est seul à devoir le faire face à quelqu'un d'hostile et quand cela peut nous coûter quelque chose, ou d'obéir au Christ quand personne d'autre que lui ne nous voit. Ça, c'est difficile. Hein. Chanter des cantiques, le premier imbécile sait faire ça. Vous savez que le diable, il chante des cantiques, hein, il se meurt. Hein. Parfois, dans certains églises, il pousse la gueulante derrière. Oh, bande de ploucs, continuez à vous les illusionner. Et dès que vous êtes sorti du culte, vous faites n'importe quoi. Continuez, moi, ça m'arrange. Hein. Alors, pour être complet, on va reprendre une dernière fois nos deux textes. Je reprends mon texte de Jean 15. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » On peut quand même poser la question, encore une fois, vous rendez compte qu'on se pose beaucoup de questions, mais s'interroger et poser des questions par rapport au texte, ça éclaire, hein, c'est une des étapes de l'exégèse. Hein. De quoi Jésus nous parle-t-il ici en liant le fait de demeurer et celui de garder ses paroles? Nous devons, dit-il, et demeurant en lui et ses paroles, son enseignement en nous. En fait, ce dont Jésus parle ici, c'est une parabole, hein, c'est d'obéissance. Alors Dietrich Bonhoeffer, le fameux pasteur allemand mort martyr dans un camp de concentration nazi, disait au sujet de l'obéissance, et je le cite, « L'opposé du pharisianisme, ce n'est pas la grâce, c'est l'obéissance. » C'est fort, ça. Hein, je rappelle quand même que ces hommes religieux, les pharisiens du temps de Jésus, obéissaient aux 613 commandements contenus dans la loi de Moïse tous les jours. Ils obéissaient. Et Jésus leur a reproché de ne pas obéir à la loi. C'est quand même surprenant. Hein. Pourquoi est-ce que Jésus leur a reproché ça? Parce que la loi de Dieu n'était pas en eux. Parole en moi. Quand mes paroles ne sont pas en vous. Il leur a reproché, la loi n'est pas en vous. Ils y obéissaient extérieurement, en apparence, même s'ils s'en rejetaient un maximum. Ce que Jésus nous demande donc, c'est de lui obéir intérieurement, de laisser ses paroles prendre possession dans notre cœur, afin de pouvoir porter du fruit qui se verra extérieurement. Dans le cas contraire, dit-il, nous ne demeurerons pas en lui. Alors, pour éclairer cette parole de l'évangile de Jean, je vais reprendre, pour vous montrer que ce sont deux textes miroirs, hein, je vais reprendre notre passage de Romains 8 en nous posant une autre question. Je sais bien qu'il y a beaucoup de questions. Il faudra lire tout ça sur le site, je vous encourage à le faire. Hein. Qu'est-ce qui pourrait dans ma vie, on va être pratique, hein, qu'est-ce qui pourrait dans ma vie me faire pratiquement quitter mon logement en Christ? Qu'est-ce qui pourrait bien me donner envie de déménager spirituellement? On va reprendre Romains. C'est un peu plus loin. Or, dit Paul, si nous sommes enfants, donc de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Ah, oh, ça c'est bien. Héritiers de Dieu, moi ça me plaît. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Rappelez-vous la question. Qu'est-ce qui peut nous faire sortir de notre position en Christ? Nous sommes enfants de Dieu, dit Paul. Et par la même, héritier du royaume de Dieu avec Christ. Et là, logiquement, quand on lit ça, on dit oh, « oh, oh, génial, je vais hériter du royaume. » Quelle espérance, mais une condition, nous dit Jésus, enfin nous dit Paul. À condition que nous souffrions avec lui ou comme lui, ou lorsque nous souffrions ensemble, lui et moi. C'est le sens du verbe grec. Souffrir avec Jésus. Alors instinctivement, la grande majorité des chrétiens, quand ils lisent ce texte, ils le lisent, hein, ils comprennent ce passage en accord avec le martyr. Je dois mourir martyr ou mourir dans l'affreuse souffrance pour pouvoir hériter du royaume. Parce que Jésus, c'est un peu ce qui s'est passé. Et la plupart des disciples de Jésus sont morts martyrs. Alors vite, une carte du monde et de l'Église persécutée que je vois un pays où je peux aller me faire introniser par mon martyr héritier du royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens comprennent ce texte comme ça, mais ne partent pas. Ils ne vont pas en Soudan, ils ne vont pas en Arabie pour autant. Et ils se disent peut-être, je pense que ça veut dire ça, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, il ne se passe rien dans leur vie, ils n'essayent pas de comprendre plus loin. Mais je pense que c'est dommage. Parce qu'on a ici la raison pour laquelle les chrétiens ne demeurent plus. La raison. Et le contexte de cette raison, ce qui nous donne la raison, c'est le verset 22. On va un peu plus loin. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement ou de l'accouchement. est en travail la création, elle souffre. Les souffrances auxquelles Paul fait référence, que nous devons souffrir avec le Christ, ce sont bien des souffrances liées à la terre, à cette création dont Paul parle, souffrances que Jésus a connues, qui sont communes à la création et à l'homme qui en fait partie. Souffrances d'un monde déchu, voué au péché, revoilà le lien. Nous sommes appelés afin de demeurer en lui à vivre les souffrances inévitables de cette terre en communion avec le Christ. Quelles sont ces souffrances? La mort, la maladie, la souffrance, l'épreuve. C'est ça qui peut me faire quitter mon logement en Christ. Qui peut me pousser à ne plus demeurer. C'est les souffrances que j'endure ici. On m'annonce que j'ai un cancer ou toute une maladie grave. Je réagis comment? J'en veux à Dieu. Je l'invective parce que c'est injuste. Je le maudis ou je l'expulse de ma vie à chaque étape de la chimie en lui disant qu'il est inutile et que s'il m'aimait, ça ne m'arriverait pas. Ou alors je vis ça fermement cramponné à lui, sachant que même si l'issue est incertaine, je suis sûr de son amour et de ce que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne s'agit pas ici de nier notre souffrance, notre angoisse, mais bien de l'offrir au Christ qui nous porte et qui sait, parce qu'il a vécu, ce que souffrir veut dire. Ce qu'angoisser veut dire. Comment je vis les difficultés de ma vie? Avec foi et espérance, sachant que tout cela, par la foi, est fort relatif, c'est ce que Paul dit, quant à l'avenir glorieux qui m'attend, ou en maudissant ou délaissant celui qui est là et qui m'aime. C'est les souffrances de ce monde qui peuvent nous faire dégager et quitter notre demeure en Christ. Ça peut-être vous étonner, mais moi, il y a un épisode de l'Ancien Testament qui est pour moi éblouissant de clarté par rapport à ça. Et c'est un texte qui m'a toujours émerveillé. Alors, pas seulement par son côté miraculeux, je vais y venir, mais bien par le sens profond que cet épisode tente à nous faire comprendre. Shadrach, Meshach et Abednego, oui, sont trois noms à coucher dehors que certains d'entre nous connaissent bien. C'était trois compagnons du prophète Daniel. Trois jeunes hommes qui ont été jetés vivants dans une cuve en flammes, une fournaise, parce qu'ils avaient refusé de plier le genou et d'adorer la statue du roi de Babylone. Mais voici ce qui s'est passé après qu'on les ait jetés dans la fournaise. Je cite le texte de Daniel. « Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Et ils répondirent au roi, certainement notre roi. Il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. » Ils étaient trois, et à présent, au cœur de la fournaise, ils sont quatre. Mes amis, la maladie peut être une fournaise. Ma vie de couple peut être une fournaise. Ma famille peut être une fournaise. Ma vie professionnelle peut être une fournaise. Ma vie tout court peut être une fournaise. Mais si je pouvais la regarder, ma vie, d'au-dessus, je verrais que je ne marche pas seul, que quelqu'un d'autre marche avec moi. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le Fils de Dieu. Un disciple ne marche jamais seul, quelles que soient ses circonstances, parce qu'il sait en qui il a cru, en qui il a placé sa confiance. Sir Stanley Baldwin, que vous ne connaissez absolument pas, qui fut un premier ministre britannique à deux reprises, a dit ceci. « Je fais partie de ceux qui préféraient couler avec la foi que nager sans elle. » Un disciple meurt avec son maître plutôt que vivre sans lui. Qu'est-ce qui peut me faire sortir de ma position en Christ et donc de disciple? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de devenir disciple? On va reprendre, je vais faire un récapitulatif. Ne pas comprendre que Dieu est mon Père et qu'il m'aime. Ne pas comprendre que mes péchés et ma réaction à ceux-ci sont soit un témoignage du combat que je mène contre ma nature humaine, soit l'expression de mon abattement ou de ma désinvolture. Ne pas vivre les événements douloureux et difficiles de ma vie dans la foi au Christ qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ce sont les épreuves, la plupart du temps, qui nous font sortir de notre position. Alors pour terminer, je termine avec ça. Vous allez voir que c'est interpellant, je trouve. J'aimerais à présent, j'espère que vous avez plus ou moins entendu ce que j'ai dit, j'aimerais à présent terminer en citant simplement le premier et le dernier verset du chapitre 8 de cette fameuse épître de Paul qui nous aura bien occupés aujourd'hui. Je vous cite le premier verset de ce même chapitre 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous tombez, vous désobéissez, Dieu vous relève. » Si vous prenez conscience et vous demandez pardon, il vous relève. C'est le premier verset. Ça vient après forcément ce chapitre 7 où Paul dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Je veux faire le bien, je fais le mal. » Et un peu plus loin, Paul dit justement « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et les deux derniers versets du chapitre 8. Écoutez, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie... » c'est un disciple, Paul, hein. Ça, évidemment, il ne faut pas le perdre de vue quand on entend ça. J'ai l'assurance, la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous couper de son amour, si ce n'est nous-mêmes. Jésus dit, vous pouvez vous couper. Moi, je ne couperai pas. Ça ne viendra jamais de moi. Mais vous pouvez vous couper. Faites attention de vivre tout ce que vous avez à vivre avec moi, accroché à moi. Mes amis, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais notre maître, par amour, s'est fait plus petit que nous. Et ça, je pense que nous ne devons jamais l'oublier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse. Amen.